Le Dieu que nous adorons, étude numéro 002. Il existe une grande confusion sur ce qu'est le Dieu de la Bible. L'une des causes est que plusieurs mots descriptifs et titres pour Dieu en hébreu se traduisent en français par le seul mot Dieu, avec pour conséquence une perte importante de détails et d'informations. Ce qui a conduit à une grande variété de fausses doctrines, telles que le trinitarisme, le binitarisme, le polythéisme et l'adoration des anges. Ce document d'étude a pour but ou s'intéresse à l'identification de l'entité qui est le seul véritable Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament, et qui devrait être l'objet de l'adoration de l'humanité. La différence fondamentale entre les élus et le soi-disant christianisme dominant est la distinction faite dans la compréhension de la nature du Dieu que nous adorons. La divinité est une structure qui est étendue en un conseil. Ce conseil est mentionné dans les psaumes et autres textes mentionnés ci-après dans ce document. Et le trône de Dieu et le conseil des anciens sont décrits dans Apocalypse 4, verset 1 à chapitre 5, verset 14. Ce conseil qui inclut Jésus-Christ comme l'agneau et le grand prêtre, d'après Hébreux 8, verset 1 à 2, sert et adore le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voir Apocalypse 4, verset 8 à 11. Nous lisons dans Apocalypse 4, verset 8 à 11. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Version 8 secondes. En servant Dieu, Christ a offert sa vie, car chaque prêtre doit avoir quelque chose à offrir à Dieu sous forme de sacrifice. Voir Hébreux 8, verset 3. Apocalypse 4, verset 8 à 11 note que le trône du Seigneur Dieu Tout-Puissant est au-dessus des trônes des anciens. Toutefois, leur couronne est subordonnée au Seigneur Dieu Tout-Puissant par la volonté duquel il a créé toutes choses. Il est le Seigneur Dieu de Jésus-Christ et du Conseil. Dieu Très-Haut, Dieu le Père. De ce qui est dit ci-dessus dans ce document, et d'après les dépositions de la foi, numéro A1, la déité suprême de l'univers est Dieu. Il est le Tout-Puissant, le Créateur et le Pourvoyeur du ciel, de la terre et de tout ce qu'il renferme. Genèse 1, verset 1, Néhémie 9, verset 6, Psaume 124, verset 8, Ésaïe 40, verset 26, verset 28, Ésaïe 44, verset 24, Actes 14, verset 15, Actes 17, verset 24, verset 25, Apocalypse 14, verset 7. Lui seul est immortel. 1 Timothée 6, verset 16. Il est notre Dieu et notre Père, et le Dieu est le Père de Jésus-Christ. Jean 20, verset 17. Il est le Dieu très haut. Genèse 14, verset 18. Nombre 24, verset 16. Deutéronome 32, verset 8. Marc 5, verset 7. Et le seul véritable Dieu. Jean 17, verset 3. 1 Jean 5, verset 20. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus est une image du Dieu invisible, le premier engendré, en grec prototokos, de la création. Colossiens 1, 15. Et par conséquent, le commencement, en grec arché, de la création de Dieu. Apocalypse 3, verset 14. Jésus est le seul fils né, en grec monogéné, de Dieu. Matthieu 3, verset 17, Jean 1, 18, 1 Jean 4, verset 9. Conçu de l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Luc 1, verset 26 à 35. Il est le Christ ou le Messie. Matthieu 16, verset 16, Jean 1, verset 41. Envoyé de Dieu pour être notre Sauveur et Rédempteur. Matthieu 14, verset 33, Jean 8, verset 42, Éphésiens 1, verset 7, Tite 2, verset 14. La compréhension de celui que nous adorons est aussi démontrée par deux signes qui, ensemble, avec la compréhension de la nature de Dieu, forment la base du scellement des élus. Les deux signes sont le sabbat, entre parenthèses d'après Exode 20, verset 8, verset 10, verset 11, Deutéronome 5, verset 12. Le sabbat est le signe entre nous et Dieu, qui nous rend saints, Exode 31, verset 12 à 14. Et la Pâque est un signe ou un sceau, où, d'après Exode 13, verset 9, verset 16, la Pâque, incluant la fête des pains sans levain, est le signe de la loi du Seigneur, Deutéronome 6, verset 8, et de sa rédemption d'Israël, Deutéronome 6, verset 10, qui, à partir du Nouveau Testament, s'étend à tous ceux qui sont en Christ, Romains 9, verset 6, Romains 11, verset 25 à 26. Ces signes de la loi, le sabbat et la Pâque, sont spécifiquement destinés à protéger contre l'idolâtrie. Voir Deutéronome 11, verset 16. Ces signes sont le sceau sur la main et sur le front des élus du Seigneur et constituent, avec le baptême, la base du scellement des 144 000 des derniers jours dans Apocalypse 7, verset 3. La loi de Dieu émane de la bonté permanente de sa nature. La loi de Dieu procède de la nature de Dieu et ainsi elle demeure pour toujours, car Dieu lui-même est immuable, étant essentiellement bon comme centre de la bonté ultime. Dans Marc 10, verset 18, Christ a dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. » La bonté de Dieu amène chacun de nous à nous repentir. Romains 2, verset 4. La nature de Dieu est bonté immuable. L'armée céleste participe de sa nature. Ils deviennent ainsi constants dans la nature divine et dans la bonté divine. De cette façon, Christ est le même hier, aujourd'hui et aux âges, en grec « aionos ». Hébreu 13, verset 8. Les élus, en participant à la nature divine, voire 2 Pierre 1, verset 4, font partie intégrante d'un sacerdoce divin, celui de Melchisédek, qui est intransmissible, en grec on dit « aparabaton » ou « immuable dans l'âge »,« eiona ». Hébreu 7, verset 24. Christ est capable de sauver en totalité tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Voir Hébreu 7, verset 25, dans la Bible interlinéaire grec-anglais de Marshall. Mais Christ n'est pas l'objet d'adoration ni le Dieu qui commande par volonté. La loi de Dieu doit être poursuivie par la foi et non par les œuvres. Voir Romains 9, verset 32. L'adoration de Dieu. La position primaire et le signe principal des élus est et a toujours été celui du monothéisme absolu et d'une croyance dans la relation subalterne, entre parenthèses, de subordination de Jésus-Christ. Nous n'adorons aucun autre Elohim que Dieu qui est le Père. Voir Exode 34, verset 14, Deutéronome 11, verset 16. Ou nous serons détruits. Deutéronome 30, verset 17 à 18. Dieu a donné son premier commandement ainsi, citation, Exode 20, verset 2, nous lisons. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu, Elohim, devant ma face. » Le concept de « devant » ici est celui d'à côté d'eux, comme à la place d'eux ou sans l'autorité du Dieu, que nous comprenons comme étant Dieu le Père. Entre parenthèses pour une explication de l'Elohim étendue, voir le document d'étude « Les élus en tant qu'Elohim » numéro 001. Nous devons aimer le Seigneur notre Dieu et le servir de tout notre cœur et de toute notre âme, c'est-à-dire notre être. Et en retour, nous aurons la pluie en saison, donnant les récoltes et du pâturage pour nos troupeaux. Autrement dit, nous serons nourris avec abondance, voir Deutéronome 11, verset 13 à 15. Mais nous avons une nouvelle alliance dans laquelle le Seigneur établit ses lois dans nos esprits et les écrit dans nos cœurs. Il est notre Dieu et nous sommes ses serviteurs et nous l'adorons en observant ses lois dans notre nature même. Hébreux 8, verset 10 à 13. Nous devons adorer devant le Seigneur notre Dieu. Voir Deutéronome 26, verset 10, 1 Samuel 1, verset 3, 15, verset 25. Mais ce Dieu est-il multiple? Est-il légitime d'en mettre d'autres sur le même pied d'égalité que lui? Ou d'affirmer que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est Dieu? La réponse est un non catégorique. Christ a été défié dans le désert par Satan. Et en fait, l'épreuve de Satan a commencé. Satan, qui était l'étoile du matin, le Lucifer, ou porteur de lumière de cette planète, voir Ésaïe 14, verset 12, en tant que son gardien et enseignant, était en effet un des Elohim, ou Dieu au pluriel, qui était subalterne, subordonné à Dieu le Père. Christ devait être l'étoile qui devait sortir de Jacob dans Nombre 24, verset 17. C'est ainsi qu'il est signifié dans les livres de Moïse que l'une des étoiles du matin, mentionnée comme étant présente à l'achèvement de cette planète dans Job 38, verset 7, l'un des Elohim devait devenir un être humain de Jacob et par David, voir Apocalypse 22, verset 16. Cet Elohim, que nous connaissons sous le nom de Jésus-Christ, n'était pas encore l'étoile du matin de cette planète. Ce rang était occupé ou détenu par Satan, d'après Ésaïe 14, verset 12, et Ézéchiel 28, verset 2 à 10. Christ avait été oint, comme l'Élohim d'Israël, d'après Psaume 45, verset 7, et oint au-dessus de ses compagnons ou associés, camarades. Cependant, Christ n'était pas en fait dans la position d'étoile du matin et n'assumera pas ses fonctions avant son deuxième avènement. Le rang et les devoirs doivent être partagés avec Christ par les élus, qui partagent sa nature d'étoile du matin dans leur cœur. Entre parenthèses, traduite « étoile du jour » dans 2 Pierre 1, verset 19. Les élus ont reçu la promesse de partager ce pouvoir dans Apocalypse 2, verset 28. Satan, en tant qu'étoile du matin, avait défié le Dieu Très-Haut ou Dieu le Père, comme on nous le dit dans Ésaïe 14, verset 12. Satan a essayé de monter ou d'exalter, élever son trône, un trône de Dieu, au-dessus des étoiles de Dieu ou du conseil des Elohim. Ce conseil est la congrégation des Elohim ou des dieux, dont il est question dans Psaume 82, verset 1. Il est intéressant de noter qu'Irénée, le disciple de Polycarpe, le disciple de Jean, a soutenu que Psaume 82, verset 1 faisait référence au Théoi ou à Dieu, qui incluait aussi les élus, à savoir ceux de l'adoption. Voir l'ouvrage de Irénée Against Heresy, livre 3, chapitre 6, Ante Nicene Fathers, volume 1, page 419. Il existe de multiples fils de Dieu tirés de Job 1, verset 6, Job 2, verset 1, 38, verset 7, Psaume 86, verset 8 à 10, Psaume 95, verset 3, Psaume 96, verset 4, Psaume 135, verset 5, qui sont identifiés comme les Béné Elion, ou fils du Très-Haut. Voir aussi Sabourin, S.J., The Psalms, Their Origin and Meaning, Alba House, N.Y., page 72 à 74. Les élus humains sont également inclus avec l'armée céleste en tant que fils de Dieu, selon Romains 8, verset 14. Nous lisons dans Romains 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Version Louis II. Ainsi, Christ et les élus, en tant que fils de Dieu, ne font qu'un avec Dieu, par l'Esprit Saint. Ils sont un, mais pas au sens où les trinitaires l'affirment. Devons-nous affirmer qu'ils sont un seul grand être parce que Dieu est un? Non. Cela démontre l'absurdité du trinitarisme. Et pourquoi les partisans du trinitarisme doivent affirmer que Christ était l'unique Fils de Dieu, alors que c'est une question de fait biblique qu'il ne l'est pas et ne l'a pas été dès la fondation du monde. Si l'on affirme que les fils de Dieu étaient des anges, alors il faut également affirmer que Christ est inclus dans cette catégorie. D'après Actes 7, versets 35 à 39, c'est un ange qui a parlé à Moïse au Sinaï, et cet ange était Christ. Dans Galates 4, verset 14, Paul se compare à un ange de Dieu, le Christ Jésus. Nous deviendrons aussi comme des anges, voir Matthieu 22, verset 30, comme un ordre, ou en grec, isangelos, de Luc 20, verset 36, étant cohéritier avec Christ, Romains 8, verset 17, Galates 3, verset 29, Tite 3, verset 7, Hébreux 1, verset 14, chapitre 6, verset 17, chapitre 11, verset 9, Jacques 2, verset 5, 1 Pierre 3, verset 7. L'identification du Messie comme l'ange de YHWH dans l'Ancien Testament est contenue dans les documents d'études des élus en tant qu'Élohim, numéro 001, et l'ange de YHWH, numéro 024. Voir aussi Exode 3, verset 4 à 6, où le Dieu ou Élohim était ici un ange. Le psaume 89, verset 6 à 8 montre qu'il y a un conseil des saints, en hébreu Kedoshim ou Kadoshim, également utilisé pour les êtres humains. Et un examen du texte montrera qu'il y a deux conseils, un conseil intérieur et un conseil extérieur. L'examen des textes du 1er siècle, les manuscrits de la mer morte, le pseudépigraphe, l'ugaritique, le Nag Hammadi, ne laisse aucun doute sur le fait qu'on comprenait à l'époque qu'il y a un conseil céleste des dieux de la justice ou des Elohim de la justice. La vertu et la justice sont le même mot « tzedek » en hébreu. Elles sont comprises comme étant la même chose. Par conséquent, la perversion non repentie de la justice exclut les élus de la première résurrection. Satan a été expulsé du ciel pour le péché de rébellion qui, parce qu'il cherche à établir une volonté égale ou supérieure à Dieu le Père, est de l'idolâtrie, entre parenthèses, ou sorcellerie, comme le dit 1 Samuel 15, verset 23. Satan a cherché à se rendre égal au Très-Haut ou Dieu le Père. Christ, par contre, n'a pas cherché à se rendre égal à Dieu en subordonnant sa volonté. Jean 4, verset 34. Nous lisons dans Philippiens 2, verset 6 à 9, « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ainsi, Dieu a exalté Christ par le moyen de l'obéissance, car Christ n'a pas cherché l'égalité avec Dieu, ni n'a cherché à déposer Dieu comme un tiers des Elohim et Béné Elohim avait en effet cherché à le faire. Dans Luc 10, verset 18, Christ a dit qu'il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan a entraîné un tiers des anges ou des étoiles du ciel, voir Apocalypse 12, verset 4. Ces anges ont été chassés et précipités avec Satan sur la terre, Apocalypse 12, verset 9. Cette désolation est symbolisée par la désolation mentionnée dans Apocalypse 8, verset 10, où le troisième ange démontre à nouveau la désolation causée par la chute d'une étoile de l'armée, ravageant un tiers de la création. Satan a essayé de tenter Christ de plusieurs façons. Tout d'abord, Satan s'est référé à Christ comme étant le Fils de Dieu dans Matthieu 4, verset 3, chapitre 4, verset 6 et Luc 4, verset 3. Les démons se sont aussi référés à Christ comme étant le Fils de Dieu dans Matthieu 8, verset 29, Luc 4, verset 41 et Marc 3, verset 11. Satan a tenté d'inciter Christ à prouver sa position de Fils de Dieu par une démonstration de puissance, en ce sens que Dieu avait promis qu'il donnerait des ordres à ses anges de veiller sur lui, dans Psaume 91, verset 11 à 12. Satan a omis de te garder dans toutes tes voies et a ajouté à tout moment. Ainsi, en déformant l'Écriture, Satan a tenté de prendre la vie de Christ. Christ n'a pas, à aucun moment, corrigé Satan ou les démons en affirmant qu'il était Dieu, au lieu du Fils de Dieu. En effet, aucun démon n'a essayé d'affirmer la supercherie selon laquelle Christ était le Dieu suprême, sauf après sa mort, afin d'établir une doctrine qui disait que Christ était Dieu de la même manière que est égal à Dieu le Père, et ainsi réaliser de la sorte, après sa mort, une tromperie que Christ aurait réfutée dans la vie. Dans chacune des tentations, le dessein était de saper l'obéissance de Christ à Dieu, et en fait à briser l'Écriture. Satan a essayé d'inciter Christ à l'adorer. Satan a promis à Christ le gouvernement et domination de la planète, à ce moment-là, si Christ l'adorait. Christ n'a pas contesté son droit de transférer sa domination de la planète, ni même le fait qu'il était le dirigeant. Au lieu de cela, Christ a répondu, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Christ n'a pas dit à Satan que celui-ci devait adorer Christ, mais Christ l'a plutôt renvoyé à la loi. Christ n'a jamais, à aucun moment de son ministère, prétendu être Dieu. Christ a dit qu'il était le Fils de Dieu. C'est pour cette raison qu'il a été mis à l'épreuve, comme c'est écrit dans Matthieu 27, verset 43, où il est écrit « Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il dit « Je suis Fils de Dieu ». C'est là que Christ a crié pour accomplir l'écriture de Psaume 22, verset 1, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est évident que Christ ne se considérait pas comme étant Dieu. Il est absurde de suggérer qu'il faisait partie, à titre égal, de l'entité à laquelle il faisait appel, dont une partie était impassible. Plus important encore, c'est la doctrine de l'Antichrist énoncée dans 1 Jean 4, verset 1 à 2. Le texte ancien correct pour 1 Jean 4, verset 1 à 2 est reconstruit à partir d'Irénée, chapitre 16, verset 8, dans l'ouvrage « Les Pères d'Avant-Nicée, volume 1, notation, page 443. Nous lisons. « Vous connaîtrez par la présente l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui sépare Jésus-Christ n'est pas de Dieu, mais est de l'Antichrist. » L'historien Socrate dit, dans la section 7, 32, page 381, que le texte avait été corrompu par ceux qui voulaient séparer l'humanité de Jésus-Christ de sa divinité. Aussi, dans Luc 22, verset 70, ils ont tous dit « Es-tu donc le Fils de Dieu ?» Il a répondu « Vous le dites, je le suis. » Il a été reconnu comme le Fils de Dieu dans Matthieu 27, verset 54, où ils ont dit « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Marc 1, verset 1 dit que l'Évangile est celui de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Luc 1, verset 35 dit que le Saint qui allait naître devait être appelé Fils de Dieu. Comprendre que Christ est le Fils de Dieu est une révélation de Dieu. Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, versets 16 à 17, « Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » C'est ce que dit également Matthieu 11, verset 27, où nous lisons, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Ainsi le Père révèle les choses aux individus et les donne à Christ qui leur révèle alors le Père. Il ne fait aucun doute que Dieu est unique et souverain. Proverbe 30 versets 4 à 5 montre le nom de Dieu et qu'il a un Fils. Nous lisons. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son Fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu, Eloi, est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. La Bible s'interprète elle-même, et le nom de Dieu est directement fourni à la suite de la question. Et il est clair que cette entité n'est pas un composite du Père et du Fils, mais plutôt qu'il a un Fils. En outre, le Nouveau Testament déclare clairement que c'est le Père qui est l'objet d'adoration. Christ a averti la femme samaritaine dans Jean 4, verset 21, que le moment viendrait où il ne pourrait adorer le Père ni sur sa montagne, la Samarie, ni à Jérusalem. Mais Christ dit clairement dans Jean 4, verset 23, nous lisons, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Christ identifie ici l'objet d'adoration comme étant le Père et non lui-même. Il est donc tout à fait blasphématoire d'affirmer que l'on doit adorer Christ élevé, d'après une perversion de Jean 3, verset 14, où le Fils de l'homme devait être élevé comme Moïse avait élevé le serpent dans le désert. Le but de la crucifixion était pour que l'homme puisse avoir la vie éternelle et non pour que Christ devienne un objet d'adoration, comme l'affirment faussement les apostats. En effet, c'est à partir de cette fausse prémisse que l'on affirme que les chrétiens adorent le corps et le sang de Christ dans l'Eucharistie. Un tel acte est une pure idolâtrie. L'Esprit Saint. Les trinitaires affirment que l'Esprit Saint est une troisième personne d'une divinité fermée. C'est faux. Nous allons lire maintenant une citation à partir de « Les dépositions de la foi », le document numéro A1. L'Esprit Saint, acte 2, verset 4, est cette essence ou puissance de Dieu que Christ a promis d'envoyer aux élus, Jean 16, verset 7. Ce n'est pas une personne, mais l'extension de la puissance vivante de Dieu. C'est le moyen par lequel nous devenons participants de la nature divine, 2 Pierre 1, verset 4. Étant rempli de l'Esprit Saint, acte 9, verset 77, Éphésiens 5, verset 18. Et par conséquent, tous fils de Dieu. Job 38, verset 7, Romains 8, verset 14, 1 Jean 3, verset 1 à 2. Et co-héritier avec Christ, Romains 8, verset 17, Galates 3, verset 29, Tite 3, verset 7, Hébreux 1, verset 14, chapitre 6, verset 17, chapitre 11, verset 9, Jacques 2, verset 5, 1 Pierre 3, verset 7. L'Esprit Saint est donné par Dieu à ceux qui lui demandent, Luc 11, verset 9 à 13, et qui lui obéissent, habitant en ceux qui observent les commandements de Dieu, 1 Jean 3, verset 24, acte 5, verset 32. L'Esprit Saint est le consolateur qui conduit les serviteurs de Dieu dans toute la vérité, Jean 14, verset 16 à 17, verset 26. L'Esprit Saint confère la puissance de témoigner, acte 1, verset 8. Il donne et administre les dons, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. Et l'Esprit Saint produit des fruits tels qu'ils sont décrits dans Galates chapitre 5, verset 22 à 23, n'étant pas donnés par mesure, Jean 3, verset 24 dans la version RSV de la Bible, Romains 12, verset 6. L'Esprit Saint est le moyen par lequel Dieu peut finalement devenir tout en tous, 1 Corinthiens 15, verset 28, Éphésiens 4, verset 6. L'Esprit Saint agit ou opère avant le baptême, l'Esprit Saint amène ou attire l'individu vers Dieu par Christ, Hébreux 7, verset 25. Les premiers fruits, les prémices de l'Esprit sont donnés à l'individu lors du baptême, voir Romains 8, verset 23, qui indique clairement que l'adoption n'a pas lieu avant la rédemption du corps. Ainsi, nous sommes nés de nouveau, mais nous continuons à grandir chaque jour, en esprit, en Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous entrions dans la gloire de Dieu. L'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. 1 Jean 4, verset 6, chapitre 5, verset 6. Et en disant la vérité en toutes choses, nous grandissons en Christ notre chef à tous égards. Éphésiens 4, verset 15. L'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu, Romains 8, verset 14, et l'Esprit de foi, 2 Corinthiens 4, verset 13, qui sonde tout et connaît toutes choses. 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11, chapitre 12, verset 3 et suivant. Ainsi, l'Esprit Saint n'est pas un aspect indépendant d'un Dieu triune, mais l'Esprit Saint est le moyen par lequel nous devenons Elohim. Zacharie 12, verset 8. L'Esprit transmet à Dieu une compréhension de nos pensées et notre être même. Étant répandu à travers Jésus-Christ, notre médiateur et intermédiaire, Elohim ou Théos, voir psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8 à 9, l'Esprit Saint permet à Christ de nous aider, de nous enseigner et de nous réconforter et de nous permettre d'exercer le pouvoir ou puissance de Dieu. L'Esprit donne à chacun les attributs que Dieu désire pour le bénéfice du corps, comme le souligne 1 Corinthiens 12, verset 7 à 11. On peut éteindre l'Esprit, 1 Thessaloniciens 5, verset 19, si on le néglige ou l'attriste, Éphésiens 4, verset 30. Et ainsi admet-il des gains et des pertes chez l'individu. Le fruit de l'Esprit Saint est l'amour, de Galates 5, verset 22. Par conséquent, si nous ne nous aimons pas les uns les autres, l'Esprit Saint n'est pas évident. L'Esprit est le moyen par lequel nous adorons Dieu, comme indiqué dans Philippiens 3, verset 3. Ainsi, l'Esprit ne peut pas être Dieu en tant qu'objet d'adoration et par conséquent égal à Dieu le Père. C'est une force qui donne du pouvoir à Christ. Christ est ainsi un Père éternel, voir Ésaïe 9, verset 6, duquel il y a plusieurs paternités aux cieux et sur la terre, voir Éphésiens 3, verset 15. Christ devient Père éternel par délégation. Toutes ces paternités ou familles sont nommées d'après ou portent le nom de Dieu le Père. Et c'est la raison pour laquelle nous fléchissons les genoux devant Dieu le Père en l'adorant. Éphésiens 3, verset 14 à 15. Christ fut le premier-né ou premier engendré de la création. Pour lui, toutes choses ont été créées dans les cieux et sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit les trônes, les dominations, les principautés ou les autorités. Toutes choses ont été créées par son entremise et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, verset 16 à 17. Mais c'est Dieu qui l'a généré et qui a voulu que la création existe et subsiste en Christ. Par conséquent, Christ n'est en aucun cas Dieu, au sens que Dieu le Père est Dieu et qui seul est immortel. 1 Timothée 6, verset 16, existant dans la perpétuité. La Bible considère que Dieu est le Dieu et le Père de Christ. Romains 15, verset 6, 2 Corinthiens 1, verset 3, 2 Corinthiens 11, verset 31, Éphésiens 1, verset 3, verset 17, Colossiens 1, verset 3, Hébreux 1, verset 1 et suivant, 1 Pierre 1, verset 3, 2 Jean 3, Apocalypse 1, verset 1, verset 6, chapitre 15, verset 3. Christ reçoit ou tire sa vie, sa puissance et son autorité par l'ordre de Dieu le Père. Jean 10, verset 17 à 18. Christ subordonne sa volonté à celle de Dieu, qui est le Père. Matthieu 21, verset 31, chapitre 26, verset 39, Marc 14, verset 36, Jean 3, verset 16, Jean 4, verset 34. Dieu a donné les élus à Christ, et Dieu est plus grand que Christ, Jean 14, verset 28, et plus grand que tous, Jean 10, verset 29. Ainsi Dieu a envoyé son seul Fils né, en grec monogéné, dans le monde, pour que nous vivions par lui, 1 Jean 4, verset 9. C'est Dieu qui honore ou glorifie Christ, Jean 8, verset 54. Dieu étant plus grand que Christ, Jean 14, verset 28. Dieu est le rocher, en hébreu on dit sûr, comme une carrière ou une montagne, duquel tous les autres sont extraits, le silex de Josué qui circoncit Israël, la cause principale et efficace, Deutéronome 32, verset 4. Voir l'ouvrage de Maïmonide, Guide of the Perplexed, University of Chicago Press, 1965, chapitre 16, page 42 et suivant. Dieu est le rocher d'Israël, le rocher de leur salut, Deutéronome 32, verset 15, le rocher qui les a portés, Deutéronome 32, verset 18, verset 28 à 31. 1 Samuel 2, verset 2 montre que notre Dieu est notre rocher, un rocher éternel, Ésaïe 26, verset 4. c'est de ce rocher que tous les autres sont taillés, y compris toute la postérité d'Abraham dans la foi. Ésaïe 51, verset 1 à 2. Le Messie est taillé de ce rocher. Daniel 2, verset 34, verset 45. Pour subjuguer les empires du monde. Dieu est le rocher ou la base sur laquelle la fondation est posée et sur lequel Christ va bâtir son Église. Matthieu 16, verset 18. Et sur lequel il repose lui-même. Le Messie est la pierre angulaire du temple de Dieu, duquel les élus sont le Naos ou le Saint des Saints, le dépôt de l'Esprit Saint. Toutes les pierres du temple sont toutes taillées du rocher qui est Dieu, comme Christ l'a été, et sont données à Christ, le rocher spirituel, 1 Corinthiens 10, verset 4. La pierre d'achoppement est un rocher de scandale, Romains 9, verset 33, pour former le temple. Christ construit le temple afin que Dieu soit tout en tous, Éphésiens 4, verset 6. Dieu a donné Christ pour que Dieu soit tout et en tous. En grec, panta kai en pasin, Colossiens 3, verset 11. En mettant toutes choses sous ses pieds, 1 Corinthiens 15, verset 27, en lui donnant la position de chef ou la tête de toutes choses à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, Éphésiens 1, verset 22 à 23. Lorsque Dieu met toutes choses sous Christ, il est évident que Dieu est accepté, étant celui qui met les choses sous les pieds de Christ, 1 Corinthiens 15, verset 27. Quand Christ aura soumis toutes choses, alors Christ lui-même sera soumis à Dieu, qui a mis toutes choses sous Christ, afin que Dieu soit tout en tous. En grec, panta empasin, 1 Corinthiens 15, verset 28. Ainsi, les doctrines platoniques qui cherchent à fusionner Dieu et Christ dans la Trinité contredisent l'Écriture. Christ va s'asseoir à la droite de Dieu, sous l'ordre ou direction de Dieu. Hébreux 1, verset 3, verset 13, chapitre 8, verset 1, chapitre 10, verset 12, chapitre 12, verset 2, 1 Pierre 3, verset 22. Et va partager le trône avec Dieu, tout comme les élus partageront le trône donné à Christ. Apocalypse 3, verset 21. Ce trône est un trône de Dieu. Psaume 45, verset 6 à 7, Hébreux 1, verset 8. Où Dieu est ton trône, traduit ton trône au Dieu. Entre parenthèses, voir la note de bas de page dans la Bible RSV annotée. Dieu qui envoie est plus grand que celui qui est envoyé. Jean 13, verset 16. Le serviteur n'étant pas plus grand que son Seigneur. Jean 15, verset 20. C'est la plus grande absurdité de suggérer qu'un être pourrait être un sacrifice pour lui-même. Un tel acte, logiquement, est un suicide, ou dans le cadre de la Trinité, une mutilation partielle. De là, la doctrine nie la résurrection, surtout d'après 1 Corinthiens chapitre 15. Par conséquent, la distinction dans la crucifixion et la résurrection est nécessaire, obligatoire et complète. La résurrection doit être dans la chair, ce qui implique une transformation, un changement en être spirituel, en tant que l'offrande de la gerbe. Sinon, il n'y a pas de salut ni de récolte en cours. La préparation de Christ pour l'ascension vers son Dieu et notre Dieu, qui est notre Père, Jean 20, verset 17, était réelle et distincte. Christ a réalisé ou atteint sa capacité à être Dieu et a atteint la plénitude de la divinité dans son corps grâce à l'opération de l'Esprit Saint. Ainsi, la doctrine de la filiation à partir du baptême est vraie et complète. Il y a cependant un seul véritable Dieu, Elohim. Et tous les autres Elohim existent par sa volonté et dans l'obéissance à son autorité. Tous les pouvoirs, trônes et puissances dans les cieux et sur la terre seront mis en soumission par Jésus-Christ pour et par l'ordre de cet être qui seul est le Dieu Très-Haut et l'objet de notre adoration. Il ne sert à rien de distinguer dans votre culte des signes physiques tels que le sabbat et les jours saints, commençant par la Pâque. Si cette église, ou toute autre église d'ailleurs, adopte une approche trinitaire ou dithéiste de Dieu et conteste la souveraineté du Dieu Très-Haut qui est Dieu le Père. Une telle église est déjà apostate et spirituellement morte. Au moment où vous aurez décidé de la division, votre soi-disant ligne de démarcation, vous aurez rationalisé la condition et serez vous-même spirituellement mort. Vous pousserez juste la ligne plus loin en arrière. Vous êtes appelé à adorer le Dieu Tout-Puissant à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Le sabbat et la Pâque sont des signes de cette adoration. Ils ne sont pas les facteurs déterminants de votre foi. Dieu seul est le centre de votre être. Adorez-le. La position illogique de la Trinité. Les partisans de la Trinité, que sont les trinitaires, ont essayé de donner un sens à un Dieu en trois personnes, en utilisant le terme stoïque « hypostase » et le terme platonique « ousia », qui signifie en fait l'essence de l'être. Le terme hypostase a finalement été incorporé dans la doctrine catholique, ce qui a donné lieu aux anathèmes des conciles de Chalcédoine et de Constantinople II. La structure a abouti aux déclarations de la monarchie et de la circoncession. La déclaration selon laquelle la divinité est distincte, mais non séparée, est essentiellement une déclaration de la monarchie et de la circoncession. Elle est philosophiquement absurde, du moins en français. L'utilisation des termes hypostase et ousia semble être une tentative de dissimuler l'incohérence. Les trinitaires prétendent que la divinité est constituée de trois hypostases dans un ousia, en utilisant des termes stoïques et platoniques pour essayer de faire une distinction. Certains trinitaires tentent de nier que Dieu est un être, dans l'espoir ainsi d'introduire un certain caprice supplémentaire pour se défendre contre les accusations d'être illogiques, qu'ils défendent en déclarant que tout cela est un mystère. Nier le terme « être » à Dieu et à Christ nie effectivement leur existence, ce qui est absurde. Dire que Dieu est esprit universel, entre parenthèses, ou âme universelle, dépersonnalise totalement Dieu et nie la réalité du Fils de Dieu, à part que l'existence du Fils est théoriquement affirmée comme une hypostase. C'est un jeu de mots qui ne donne aucune réalité au Sauveur. Par ailleurs, si l'on insiste sur la réalité du Fils, alors la doctrine est essentiellement une violation du premier commandement. Tu n'auras point d'autre Elohim devant moi. L'entité ici est le YHWH Eloheik, entre parenthèses, YHWH votre Elohim, qui est identifié au psaume 45, versets 7 à 8, comme l'Elohim qui a oint l'Elohi d'Israël. En élevant notre Elohim intermédiaire, l'un des membres du conseil, psaume 89, verset 7, au niveau d'Elohah, Dieu le Père, nous sommes en violation du premier commandement. C'est le péché de Satan, qui a prétendu être elle du conseil des Elohim. Ézéchiel 28, verset 2. La doctrine de la Trinité repose sur une série de fausses prémices conçues pour permettre un changement de paradigme. Ces prémices fausses sont les suivantes. Que le mot Elohim, en tant que divinité, fait référence à deux entités seulement, ne faisant aucune distinction entre Eloah et les entités multiples incluant le conseil et l'armée céleste, Daniel 7, verset 9 et suivant. Que ces deux entités, entre parenthèses et l'esprit, sont incapables de se séparer, en fait ou en pensée, et ne peuvent être correctement décrites comme des êtres. Que l'existence de Christ avant l'incarnation n'était pas en tant que l'ange de YHWH. Que Christ était l'unique Fils de Dieu avant la création du monde, voir Job 1, verset 6, Job 38, verset 7. Que Christ et Satan étaient les deux seules étoiles du matin, voir Job 38, verset 7, Ésaïe 14, verset 12, Apocalypse 2, verset 28, 22, verset 16. Que Christ est Dieu de la même manière que Dieu est Dieu, et non un Dieu subalterne, subordonné, Hébreux 1, verset 9, envoyé par le Seigneur des armées, Zacharie 2, verset 10 à 11. De là, il est fait un objet d'adoration et de prière, contrairement à Exode 34, verset 14, et Matthieu 4, verset 10, etc. Que Christ était l'unique Fils engendré, et pas le seul Dieu et Fils né, en grec, Monogenes, Theos et Huion. Jean 1, verset 18, Jean 3, verset 16, 1 Jean 4, verset 9, voir aussi Luc 7, verset 12, Luc 8, verset 42, chapitre 9, verset 38, et Hébreux 11, verset 17 pour comparaison. Christ était le premier engendré pro-autotokos de toute la création, Colossiens 1, verset 15, d'où le commencement de la création de Dieu, Apocalypse 3, verset 14, non pas selon la Bible version NIV. Que Christ avait une existence séparée de son incarnation, et par conséquent qu'il aurait pu prier à lui-même en tant que Dieu. Une telle proposition nie effectivement la distinction entre le Père et le Fils et la totalité de la résurrection. Elle est de l'Antichrist. 1 Jean 2, verset 22, 1 Jean 4, verset 3, 2 Jean 7. Que Christ et Dieu n'avaient qu'une même volonté et que Christ ne possédait pas une volonté séparée qu'il a subordonnée à Dieu par une obéissance volontaire. Contrairement à Matthieu 21, verset 31, 26, verset 39, Marc 14, verset 36 et Jean 3, verset 16, chapitre 4, verset 34. Que la nature divine n'admet aucun gain et aucune perte en Christ. Logiquement, cela reviendrait à nier la résurrection des saints, telle qu'elle est expliquée dans 1 Corinthiens 15 et dans les promesses bibliques aux élus. La Trinité cherche à affirmer que la nature divine donnée aux élus diffère de la manière dont elle est partagée par Christ. Que l'Esprit Saint est donné par mesure fixe, contrairement à Jean 3, verset 34, voir la version du second et Romains 12, verset 6. Que Christ n'aurait pas pu pécher, entre parenthèses selon la fausse prémisse d'une nature divine qui n'admet aucun gain et aucune perte, plutôt que selon l'omniscience de Dieu qui savait que Christ ne pécherait pas. que Christ était consubstantiel à Dieu, de telle manière qu'il était coégal à Dieu et coéternel avec lui, contrairement à Philippiens 2, verset 6 et à 1 Timothée 6, verset 16, qui montrent que seul Dieu est immortel. L'éternité ou la vie éonienne de Christ, 1 Jean 1, verset 2, et celle de tous les êtres, y compris Christ, découle de cette entité. Christ, tout comme les élus, sont tous de la même origine, Hébreux 2, verset 11, dans la version du second, et tirent leur vie et leur éternité de l'obéissance conditionnelle au Père, Jean 5, verset 19 à 30, qui nous a tous créés, Malachie 2, verset 10 à 15. De même que le Père a la vie en lui-même, de même il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, Jean 5, verset 26. Et nous sommes cohéritiers, étant ordonnés pour avoir la vie en nous par l'autorité de Dieu. Que les élus ne sont pas fils de Dieu, au même titre que Christ est un fils de Dieu, et par conséquent pas cohéritiers, contrairement à Romains 8, verset 17, Galates 3, verset 29, Tite 3, verset 7, Hébreux 1, verset 14, chapitre 6, verset 17, chapitre 11, verset 9, Jacques 2, verset 5 et 1 Pierre 3, verset 7. Que le Dieu suprême est descendu dans la chair et a habité parmi les hommes, entre parenthèses provenant des insertions frauduleuses dans 1 Timothée 3, verset 16 du Codex A. Ces fausses insertions ont été conservées dans la Bible version King James et manipulées dans le préambule dans la Bible version NIV. L'affirmation selon laquelle le Dieu suprême est descendu dans la chair est contraire à Jean 1, verset 18 et à Jean 1, verset 14, où c'était le Logos, ou Membra, qui s'est fait chair. Et aux nombreux textes distançant Christ du seul véritable Dieu Eloha ou Théron, qui est Dieu le Père, le Dieu de Jésus-Christ. Jean 17, verset 3, chapitre 20, verset 17, 1 Corinthiens 8, verset 6, 2 Corinthiens 1, verset 3, qui agit en son nom, Michée 5, verset 5. Les trinitaires comprennent mal le concept de la façon dont Dieu est un. Le schéma de Deutéronome 6, verset 4 est trop détaillé pour être examiné ici. Voir le document d'étude Josué, le Messie, le Fils de Dieu, numéro 134. L'entité de Deutéronome 6, verset 5 est identifiable comme étant le Dieu très haut, le Dieu qui a oint Christ en tant que Elohi d'Israël dans Psaume 45, verset 7. L'unité de Dieu ou la façon dont Dieu est un, nécessaire au monothéisme, consiste en un ordre étendu qui réside dans l'unité, sous une volonté centrale, en accord et en interaction spirituelle, par l'intermédiaire de l'Esprit et la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 14, qui, à travers Christ, est vers Dieu. 2 Corinthiens 3, verset 3 à 4. La Trinité nie l'unification nécessaire au monothéisme et est logiquement polythéiste. Elle existe parce que les dirigeants ne comprennent pas, n'étant pas spirituels. 1 Corinthiens 2, verset 8, verset 14. Question à poser aux trinitaires. Si Dieu est un seul être en trois hypostases ou personnes, en tant que Père, Fils et Esprit Saint, comment est-il possible que les passages suivants se retrouvent de façon si évidente dans le récit biblique? Que Jésus-Christ reçoive une révélation de Dieu, Apocalypse 1, verset 1, dit que c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Que Christ se soit assis sur le trône de son Père. Apocalypse 3, verset 21, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Que le chef de Christ soit Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Que Christ ait crié à Dieu. Entre parenthèses, comme il a fait en Matthieu 27, verset 46, Marc 15, verset 34, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Que Christ soit monté vers Dieu, selon Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu soient des dieux. Dans Jean 10, verset 34 à 36, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux ?» Si elle a appelé Dieu au pluriel ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites « Tu blasphèmes » et cela parce que j'ai dit « Je suis le Fils de Dieu » L'Écriture ne peut être anéantie est introduite ici pour montrer que nous devons être Elohim et que notre destin ne peut pas être brisé ou défait. Comment Christ peut-il être mis à part des autres par Dieu comme lui appartenant et envoyé dans le monde, s'il est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre? Que Christ soit créé par le Père, que Christ soit le commencement arché de la création de Dieu, Apocalypse 3, verset 14, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, Colossiens 1, verset 15. Les trinitaires essaient d'affirmer que arché et prototokos sont des titres pour éviter les conclusions évidentes qui découlent de ces textes par rapport à 1 Timothée 6, verset 16, qui montre que seul Dieu est immortel. Qu'un être s'engendre lui-même, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Que le Père seul soit au-dessus de tous, Éphésiens 4, verset 6, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Ce texte nie ainsi que le Père soit dans le Fils et que le Fils soit dans le Père uniquement. Cette relation réciproque s'étend aux élus. Jésus est le Fils du Dieu Très-Haut, Marc 5, verset 7, qui est son Dieu et son Père, Colossiens 1, verset 3, 1 Thessaloniciens 3, verset 11. Jésus est distinct de notre Dieu et Père, 2 Thessaloniciens 2, verset 16. Le fait qu'il ait dit que Dieu était son Père ne le faisait pas égal à Dieu, comme cela a été affirmé par les pharisiens dans Jean 5, verset 18. Ainsi, l'affirmation trinitaire est le même mensonge que celui dont Christ était accusé à l'époque. Comment cela se fait-il? S'il y a trois hypostases, comment les sept esprits de Dieu peuvent-ils exister? Apocalypse 5, verset 6. Ces sept yeux dans les sept cornes de l'agneau ne sont-ils pas sept subdivisions ou autorités distinctes envoyées sous la direction de Christ en tant que l'agneau pour contrôler la terre? Comment un être peut-il faire un sacrifice à lui-même? 1 Pierre 1, verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Romains 5, verset 15 dit, « Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup ?» Notre foi et notre espérance sont en Dieu, pas en Christ, mais plutôt à travers Christ, par le moyen de l'Esprit qui est l'Esprit de la foi et de la vérité. Comment un être peut-il prier à lui-même et ou donner quelque chose à lui-même? Par exemple, Luc 11, verset 13. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Jean 17, verset 4. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. 1 Jean 5, verset 10. Puisqu'ils ne croient pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Comment un être peut-il être plus grand que lui-même? Jean 14, verset 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Comment un être peut-il être divisé quant à ce qu'il sait? Matthieu 24, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Apocalypse 1, verset 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Comment un être peut-il être médiateur pour lui-même? 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Galates 3, verset 20. Or le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. 1 Jean 2, verset 1. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, verset 22. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Comment un être peut-il être subordonné à lui-même? Jean 10, verset 18. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Comment un être peut-il nier sa propre doctrine? Jean 7, verset 16. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Comment un seul être peut-il avoir plusieurs volontés différentes et pourtant avoir un élément? Christ obéir au supérieur, c'est-à-dire à Dieu. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 12, verset 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 26, verset 39, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Marc 3, verset 35, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Comment les éléments d'un être unique peuvent-ils être subalternes tout en étant co-égaux et co-éternels et faire encore partie d'une structure étendue, c'est-à-dire le corps de Christ, sans que ce même état ne soit étendu à tous les membres du corps? Comment un être peut-il s'adorer lui-même, à moins d'avoir de graves problèmes psychologiques? Dieu est l'objet d'adoration déclaré dans Ésaïe et répété par Christ dans Matthieu 15, verset 10, où nous lisons « C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Luc 4, verset 8, Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jean 4, verset 21-23, « Adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Éphésiens 3, verset 14 à 15, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Comment un être omniprésent peut-il, étant en hypostase, aller à et venir de lui-même? Jean 14, verset 28, « Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. » Jean 16, verset 27 à 28, « Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu, je suis sorti du Père, je quitte le monde et je vais au Père. » De même, comment peut-il être plus grand que lui-même? Ou comment peut-il être vu et ensuite affirmer que personne ne l'a vu? Jean 6, verset 46, « Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. » Jean 5, verset 37, « Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. » Comment Dieu peut-il avoir une figure, mais pas de forme? Comment un être peut-il s'écouter et être l'objet de sa propre prière? Jean 11, verset 41-42, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Comment un être peut-il être impuissant tout en étant dépendant de lui-même? Jean 5, verset 19, « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Comment peut-il s'imiter lui-même? Comment un être peut-il s'attribuer à lui-même une autorité indépendante? Jean 12, verset 49 à 50. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Comment un être peut-il être soumis à lui-même et remettre quelque chose à lui-même? 1 Corinthiens 15, verset 28, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » 1 Corinthiens 15, verset 24, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. » De la même façon, comment un être peut-il réallouer son pouvoir? Jean 5, verset 30, « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. » Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Comment Christ peut-il attribuer le royaume de Dieu au Père s'ils sont un seul être? Matthieu 26, verset 29. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Marc 10, verset 15, « Je vous dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu, comme un petit enfant, n'y entrera point. » Luc 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Comment un être coégal à Dieu peut-il se faire accorder quelque chose par le Père pour l'accorder ensuite à ses propres subalternes? Luc 22, verset 29 à 30, « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Comment les élus peuvent-ils être cohéritiers avec Christ si Christ est déjà Dieu, et qu'il possède la divinité depuis l'éternité? Qu'est-ce qu'il y avait, ou qu'est-ce qu'il y a à hériter? Romains 8, verset 17, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Comment un être peut-il se confesser ou nier les autres à lui-même? Matthieu 10, verset 32 à 33, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Comment un être peut-il s'aimer ou se haïr lui-même d'une manière qui ait du sens, autrement que dans une condition psychologique? Jean 15, verset 23 déclare que « Celui qui me hait, hait aussi mon Père. » Cependant, ce n'est pas parce qu'ils sont un être, comme nous voyons dans Jean 5, verset 20, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ceci dit, comment un être omniscient peut-il montrer quelque chose à un autre être omniscient? Comment alors, à la lumière de cela, et Apocalypse 1, verset 1, Christ peut-il être omniscient? Dieu est un esprit. Jean 4, verset 24 déclare que Dieu est un esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La tentative de faire lire ce texte « Dieu est esprit » n'est pas soutenue par aucune des traductions du texte et par le sens dans lequel il a été utilisé par n'importe lequel des théologiens d'avant-Nicée ou leurs traducteurs. Cette revendication vise à affirmer la non-individualité et la nature non spécifique de Dieu. Dieu est alors développé en une structure immanente étendue. Cela va au-delà du trinitarisme pour entrer dans la théologie des processus. Dieu a une famille selon Éphésiens 3, versets 14 à 16. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Les trinitaires tentent de faire de Christ et Dieu un seul être, ou affirment que Christ est Dieu en se référant au faux texte mentionné plus haut dans ce document, et à la mauvaise traduction de Jean 1, verset 1, qui pourrait plus correctement être traduite « Au commencement était la parole, et la parole était avec le Dieu, Théon, et la parole était un ou notre Dieu, Théos ». Les trinitaires se réfèrent au texte de Jean 2, verset 19, pour dire que Christ était Dieu, parce qu'il dit « Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ». La réfutation de cette affirmation se trouve dans le même évangile, dans Jean 10, verset 18, où Christ dit de sa vie que « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il ne fait aucun doute que Christ est un serviteur subalterne, subordonné, obéissant et loyal au seul véritable Dieu. Il est notre frère et co-héritier dans la promesse du royaume de Dieu. Cependant, nous ne l'adorons pas, ou ses symboles spirituels. C'est par son ordre que nous adorons Dieu. Fin de la lecture de l'étude « Le Dieu que nous adorons » numéro 002.